Merci à tous d'être revenus. Nous allons recommencer et finir ce colloque pour cette dernière demi-journée qui s'inscrit donc dans le chapitre des postérités. Et nous allons vers la sociologie contemporaine avec le premier exposé qui sera celui de Pierre Birnbaum de Paris 1, que je remercie beaucoup et je me réjouis de le voir nous rejoindre pour ce colloque.
D'abord un mot juste pour dire que le thème de ce papier n'est pas celui qui a été indiqué sur le programme. Lorsque Antoine Compagnon m'avait proposé d'intervenir, j'ai imaginé quelque chose d'assez bateau finalement sur le rapport aux politiques entre Aron et Durkheim. Et 6 mois après, donc, j'aboutis à quelque chose de très différent. Donc le titre de cette intervention pourrait être la suivante, l'allergie entre guillemets, donc, puisque c'est le terme qu'il utilise, l'allergie de Raymond Aron à l'égard d'Émile Durkheim, l'épisode paradoxal de son élection au Collège de France. Il existe une correspondance entre Raymond Aron et Marcel Mauss, qui prouve une leur très grande proximité, à la fois familiale et affective. Ainsi, le 8 octobre 1834, Aron envoie une lettre à Marcel Mauss. « Mon cher Marcel, je viens m'installer à Paris. Bouglet m'a pris comme assistant au Centre de documentation sociale, ce qui me laisse du temps pour travailler. Et j'attends un gosse pour le mois prochain. À bientôt, j'espère, et reçois mes sentiments bien respectueusement affectueux. Or, 2 années plus tard, le 3 novembre 1936, Marcel Mauss, de son côté, adresse la lettre suivante à Roger Bastide, qui en dit long sur l'évolution des sentiments entre Aron et Marcel Mauss lui-même. « Votre introduction, dit Marcel Mauss à Roger Bastide, m'a donc paru beaucoup trop philosophique. J'ajoute que l'un de ceux que vous appréciez particulièrement, Max Weber, est un de ceux avec lesquels Durkheim, Huber et moi, nous communions le moins. Naturellement, quand il se contentait de nous démarquer, ce qu'il fit longuement pendant la guerre, époque où tout était excusable, nous avions de quoi nous agacer. Mais lui s'est borné à émettre des opinions, dont un grand nombre sont suggestives et quelques-unes valables, mais dont aucune, sauf exception, n'est prouvée. Cette considération pour Max Weber est aussi une des choses qui me chiffonne dans le gentil volume de mon cousin Raymond Aron. Tout est dit sur la distance intellectuelle qui se crée et qui va s'approfondir inexorablement entre Raymond Aron et les Durkheimiens, même si Aron marque sa reconnaissance à l'égard de Célestin Bouglet, qui incarne alors la figure du Durkheimien le plus intransigeant. La sentence de Marcel Mauss est sévère à l'égard du gentil volume de son cousin, c'est-à-dire de la sociologie allemande contemporaine, qu'Aron vient de publier et qui sera sans cesse jusqu'à aujourd'hui réédité avec un succès croissant, tout à la gloire du sociologue allemand, mais surtout de Max Weber, auquel se trouve consacrée une partie considérable du volume. On comprend que Marcel Mauss en soit tout chiffonné. Dans une accusation dépourvue de toute nuance et dont on ignore encore aujourd'hui le fondement, Mauss accuse même Weber, qu'en sens Aron, d'avoir démarqué, et même longuement, les travaux de Durkheim, d'Huber, ainsi que les siens, de s'être contenté, dit-il, citation, « d'émettre des opinions sans qu'aucune ne soit prouvée », ce qui, dans son esprit, condamne à jamais ces opinions suggestives qui manquent de scientificité, de preuves, de démarches sociologiques rigoureuses dont les Durkheimiens se sont fait les avocats. La charge est lourde, rédhibitoire, et la fidélité qui ne s'est presque jamais démentie d'Aron à Weber l'éloigne durablement du camp durkheimien. Même si Mauss confie à Aron, encore en 1940, que, je cite, « le pauvre Bouglet m'a plusieurs fois dit ou fait savoir pendant sa maladie à quel degré il tenait à vous tous et à son centre, en signant, je cite, « ton vieux cousin qui t'embrasse », fin de citation, par-delà le lien familial qui subsiste, une sorte de rupture scientifique est consommée. Caron ne cache pas ses désaccords avec le fondateur de l'année sociologique ainsi qu'avec ses héritiers. Nul n'a entrepris de recenser de manière méticuleuse ses jugements négatifs portés à l'encontre de Durkheim qui ne peuvent qu'hérisser ses héritiers. On connaît sa charge ultime, la plus dévastatrice. Kant ou Proust, la déduction transcendantale ou le salon de Madame Verdurin, l'impératif catégorique ou Charlus, le caractère intelligible ou Albertine, entre les deux, ni la division du travail, ni le suicide, ni les formes élémentaires de la vie religieuse ne touchaient mon cœur. La sociologie de Durkheim, dit Aron, ne touchait en moi ni le métaphysicien que je souhaitais être, ni le lecteur de Proust, désireux de prendre conscience de la comédie et de la tragédie des hommes en société. Et Aron, en proclamant son, citation, « allergie à la sociologie de Durkheim » et son émerveillement à la découverte de la sociologie allemande, d'enfoncer le clou. Pour lui, dit-il, citation, en lisant Max Weber, j'entendais les rumeurs, les craquements de notre civilisation, les voix des prophètes juifs et en écho dérisoire les hurlements du Führer. Féru d'histoire, attentif aux idéologies, donnant toute leur importance au conflit, aux valeurs, récusant tout scientisme, toute forme de déterminisme, soucieux de remettre l'acteur avec ses intentions et ses raisons au cœur de la compréhension des phénomènes sociaux, Aron ne va pas varier dans son attachement à Max Weber, dans son refus de ce qu'il va nommer de plus en plus souvent le sociologisme durkheimien. Il est aisé d'en donner quelques exemples. Dès 1936, dans son premier ouvrage, La sociologie allemande contemporaine, entrepris pourtant à la demande de Célestin Bouglé, l'héritier fidèle du maître qu'il a pourtant accueilli dès 1934 au Centre de documentation sociale qu'il dirige, Aron s'en prend déjà au sociologisme durkheimien en 1936, alors qu'il collabore épisodiquement au même moment aux annales sociologiques que Bouglé dirige en s'inspirant de l'année sociologique. Au même moment, Aron regrette que la séparation, je cite, entre les conceptions philosophiques et observations impartiales a été toujours, je cite, rendue difficile par la manière de Durkheim qui mettait au service d'une ardeur prophétique une dialectique de philosophe en rêvant de restaurer une morale positive et impérative. Comme l'observe très justement Jean-Christophe Marcel, citation, paradoxalement, c'est avec la bénédiction du vieux durkheimien, donc de Bouglé, c'est avec la bénédiction du vieux durkheimien qu'Aron se construit une identité intellectuelle qu'il veut opposer au positivisme de l'ensemble des maîtres de la philosophie française et en particulier au durkheimisme. Lors de sa soutenance de thèse en 1938, Aron se heurte à l'hostilité de deux membres du jury d'obédience durkheimienne, Célestin Bouglé et Paul Fauconnet, qui récusent l'un et l'autre son refus de l'explication de la démarche positiviste au bénéfice de la compréhension. Cette opposition frontale à Durkheim ponctue l'œuvre d'Aron. Elle se fait jour de manière implicite en 1948, lors de l'échec de sa candidature à un emploi de professeur à la Sorbonne, quand Georges Davy, l'héritier direct de Durkheim, se prononce en faveur de Georges Gurvitch, qui, par certains aspects, se réclame de Durkheim, même s'il s'en montre fréquemment critique. En juin 1955, son élection à la chaire de sociologie de Georges Davy n'allait toujours pas de soi. Georges Gurvitch favorise la candidature rivale de Georges Balandier, d'obédience durkheimienne lui aussi. Au troisième tour, avec une voix d'avance, Aron fut élu, rejetant pour un temps de la Sorbonne l'entreprise durkheimienne. Comme le note Victor Caradi, je cite, « On peut dater le règne des durkheimiens à la Sorbonne, instance suprême de diffusion de la sociologie française et presque unique centre de recherche en ce domaine, du début du siècle, 1902, nomination de Durkheim, jusqu'à 1955, nomination de Raymond Aron. Donc, de l'un à l'autre, et c'est la fin du durkheimisme, montrait dans cette citation Victor Caradi, qui connaissait bien ces choses-là. On peut d'ailleurs, dans le même sens, citer la phrase plus récente de John L. Brown, qui dit que les quatre successeurs universitaires des durkheimiens, Gurvitch, Stutzel, Duvaux, Aron, n'ont pas seulement refusé certaines formes du durkheimisme, mais les ambitions mêmes de la sociologie durkheimienne. À considérer les divers cours qu'Aron professe et qui sont pour la plupart d'entre eux sous forme manuscrite aux manuscrits de la Bibliothèque nationale et que l'on peut consulter, donc, écrit à la plume, pour la plupart d'entre eux, par Raymond Aron lui-même. À considérer les différents cours d'Aron, que Aron professe dès la Première Guerre et avant sa nomination à la Sorbonne, soit au Collège libre des sciences sociales ou économiques, soit encore à l'IEP de Paris, on reste frappé par la quasi-absence de toute référence à l'œuvre de Durkheim. Dans nombre de ses cours non publiés, par exemple à l'IEP, Aron se montre sceptique quant à l'ambition d'une sociologie positiviste. Il estime ainsi dans un cours en 51-52 que, je cite, « le scepticisme des étudiants me paraît légitime. Il est normal qu'ils ne me considèrent pas comme scientifique. » Année après année, il passe sous silence l'œuvre de Durkheim, ou l'englobe en une seule phrase, sur l'ensemble d'un cours dont on dispose au manuscrit. Ainsi, dans un cours à la Sorbonne en 61-62, le nom de Durkheim n'apparaît qu'une seule fois tout au long de l'année dans les lignes surprenantes suivantes. Cette famille d'esprit, dit Aron, est celle de Saint-Simon, d'Auguste Comte, dans une certaine mesure de Durkheim, mais aussi dans une certaine mesure de Maurras. Et toute cette famille d'esprit, toute cette tradition saint-simonienne trouve qu'à la longue, on ne peut pas avoir une société rationnellement gérée aussi longtemps que les chefs suprêmes de cette société sont désignés par les procédures électorales et sont des amateurs sans qualification. Le 6 février 1965, on trouve là encore aux archives déposées au manuscrit de la Bibliothèque nationale un curieux dialogue entre Aron et Alain Badiou, qui alors est professeur au lycée de Garçons de Reims et qui témoigne, je ne vais pas lire cette longue discussion entre Badiou et Aron, qui est quelque peu surprenante, mais retenons simplement une ou deux phrases de Aron qui dit ceci: « De tous les livres de Durkheim, je dirais que peut-être le moins scientifique au sens moderne est La règle de la méthode sociologique. » Et il ajoute, il conclut son intervention en disant ceci: « Aujourd'hui, dans les classes terminales des lycées, aujourd'hui dans les classes, et on pourrait peut-être en dire autant à des époques récentes, aujourd'hui dans les classes terminales des lycées, il y a toujours le danger que l'on enseigne soit les règles de la méthode sociologique, soit une certaine version du marxisme. Aron n'en démordra pas en dénonçant sans cesse le sociologisme. Bien qu'il admire l'œuvre de Marx, il poursuit sans relâche un marxisme mécaniste, réducteur et idéologique qui se combine aisément, selon lui, avec la perspective qu'il considère comme déterminisme de Durkheim. Dans son cours de 1976-1977, au moment même où il s'apprête à publier « Les grandes étapes de la pensée sociologique », il oppose la sociologie de Weber, citation, qui n'a rien de mystique ou d'intuitionniste, une sociologie de la compréhension, fin de citation, à, citation, la sociologie comme science, qui couvre l'ensemble de phénomènes qui se forment dans la société, Durkheim-Mauss, conception impérialiste qui n'a jamais été jusqu'au bout. Il ajoute que Durkheim éprouve une sorte d'indifférence aux phénomènes liés aux politiques qu'il juge superficiels. Son allergie, citation, à la sociologie de Durkheim se révèle encore plus clairement cette même année lors de la parution des grandes étapes de la pensée sociologique, son ouvrage de théorie sociologique le plus considérable. Dès l'introduction de ce livre essentiel, Aron écrit ceci: « Je crains d'avoir été injuste à l'égard d'Émile Durkheim, pour la pensée duquel j'ai toujours ressenti une immédiate antipathie. Probablement ai-je peine à supporter le sociologisme sur lequel débouchent si souvent les analyses sociologiques et les intuitions profondes d'Émile Durkheim. » Tout est dit. Aron insiste sur ce sociologisme en le mettant en italique dans le texte. Après avoir proclamé une fois de plus son admiration à l'égard de Weber, qui contribue à introduire en France, Aron ajoute ceci: il reste que Max Weber ne m'irrite jamais, même quand je lui donne tort, alors qu'il m'arrive d'éprouver un sentiment de malaise, même quand les arguments de Durkheim me convainquent. Je laisse aux psychanalystes et aux sociologues le soin d'interpréter ces réactions, probablement indignes d'un homme de science. Son chapitre de présentation des ouvrages de Durkheim est un modèle de rigueur. Il multiplie les citations, dit-il, parce que, citation, je me méfiais de moi-même. J'éprouve en effet une certaine difficulté à entrer dans la façon de penser de Durkheim, faute probablement de la sympathie nécessaire à la compréhension. Fin de citation. Il récuse une forme d'évolutionnisme, de déterminisme, n'accepte pas la notion de contrainte, de conscience collective, discute la définition durkheimienne de la religion, équivalent à l'adoration de la société, rejette le moralisme de Durkheim, regrette son indifférence aux politiques, au conflit et le privilège accordé à l'intégration, critique la conception de Durkheim, se fait du socialisme comme forme d'organisation liée à l'État, considère à nouveau que, je cite, Durkheim ne s'intéresse guère aux mécanismes proprement politiques, etc., etc. Au lendemain de la parution de cet ouvrage, Aron reçoit des lettres de félicitations que l'on peut trouver, là encore, au manuscrit, déposé au manuscrit de la Bibliothèque nationale, dont celle de Claude Lévi-Strauss, qui ne cache pas sa propre hostilité à l'égard de Durkheim, dont il est un disciple inconsistant, cela a été dit, très critique depuis toujours à l'égard des formes élémentaires de la vie religieuse. Dans une lettre à Aron, il lui écrit qu'il a lu le chapitre sur Durkheim et ajoute « J'adhère à toutes vos réserves, à toutes vos critiques. À côté de ces travers de pensée, de ces paralogismes, n'y a-t-il pas autre chose ? De façon paradoxale, c'est sans doute la contribution de Durkheim à la mise en œuvre du travail de terrain fait par d'autres et qui semble aujourd'hui extrêmement novatrice, qui reste surtout à son crédit plutôt que sa sociologie ou sa philosophie. On nous avait appris à croire exactement le contraire. Georges Davy, l'héritier de Durkheim, son maître à penser sur lequel il vient de publier, Davy lui-même, dans la Revue française de sociologie, il y a peu de temps, à l'occasion du centenaire de la naissance de Durkheim, un solide article particulièrement argumenté et admirateur, Georges Davy, devant la publication de ce livre, ne cache pas son agacement à l'égard d'Aron, qui lui a pourtant succédé à la Sorbonne. Dans une recension publiée par la Revue philosophique, Davy considère que dans cet ouvrage, Weber est, citation, le plus cher des élus, tandis que Durkheim reste, citation, le moins favori. Grand seigneur magnanime, Davy n'en conclut pas moins que, au total, le chapitre sur Durkheim apprendra beaucoup de choses à beaucoup de lecteurs. Cette appréciation de l'héritier de la pensée durkheimienne est loin d'être enthousiaste. Aron s'en offusque et adresse la lettre suivante à Davy, que l'on peut trouver également au manuscrit de la BNF. « Vos critiques appellent main de discussion. Certaines me paraissent incontestables, d'autres quelque peu injustes, d'autres enfin me restent incompréhensibles, et le ton de la lettre est extrêmement agressif et critique. » On peut d'ailleurs noter qu'à la publication de ce livre, la Revue française de sociologie confie le compte-rendu de ce livre à Maximilien Rubel. Drôle d'idée, un auteur marxiste hétérodoxe qui présente l'ouvrage, s'étonne de la nature des étapes, de leurs liens parfois énigmatiques, souligne la chaleur communicative de la présentation, un article qui ne vaut pas du tout compte-rendu favorable. La rupture semble consumée avec les Durkheimiens en général et avec Georges Davy, le fidèle épigone en particulier, à tel point que Raymond Boudon croit pouvoir écrire en commentant les grandes étapes qu'Aron, je cite, apparaît comme convaincu de la force du paradigme de la sociologie de l'action et qu'il ne bougera jamais de cette conviction. Mi figue, mi raisin, Boudon ajoute ceci. Cela explique son goût constant pour la sociologie allemande, son attirance pour Tocqueville, son respect pour Marx, comme sa faible intimité de pensée avec Durkheim. À ses yeux, aux yeux de Boudon, comme dorénavant, et je vous laisse mesurer l'ironie, à ses yeux, comme dorénavant le « tout Paris » paraît désormais entiché de Hayek et de Popper, il peut se reconnaître en Raymond. Son élection au Collège de France ne va pourtant pas de soi. Aron doit s'y prendre à deux reprises pour franchir l'obstacle. En novembre 61, Aron présente son premier projet de candidature. On lui préfère le philosophe Jules Villemain. Dans une lettre dont on ignore le destinataire, Aron ne cache pas son irritation devant certains arguments qui ont été utilisés en sa défaveur. Cette lettre se trouve également au manuscrit de la BNF. Si pour des raisons scientifiques, dit-il à cette personne dont on ignore le nom, vous étiez hostile à ma candidature au mois de novembre, pourquoi ne pas me l'avoir dit franchement quand j'ai été vous rendre visite? Les choses auraient été claires, je ne vous aurais nullement tenu rigueur. Enfin, les propos tenus sur mon compte, que vous auriez tenus ou qui m'ont été rapportés, ont été au-delà des conditions courantes des compétitions universitaires. On n'en saura pas plus Dans une lettre à Aaron, Claude Lévi-Strauss écrit ceci. « J'aurais aimé être moins perspicace, mais la séance d'hier a confirmé ce qui me paraissait déjà être une loi de la maison, à savoir qu'il est très difficile, sinon impossible, de remonter tardivement le courant quand on a en face de soi un projet solidement orchestré qui a été très brillant. Il eût fallu 2 ou 3 mois de préparation qui manquaient. » En octobre 69, Aaron se lance dans une nouvelle candidature au Collège de France, rendue possible par le départ à la retraite d'Alfred Sauvy. Il souhaite être élu à une chaire de sociologie de la civilisation moderne. Sacrifiant aux traditionnelles visites, il reçoit une lettre d'Émile Benveniste qui lui assure, citation, « qu'il va de soi que vous êtes à mon égard dispensé de toute visite ». Jacques Berque lui assure de son côté que, citation, « une visite ne serait qu'une pure formalité », tandis que François Pérou lui écrit de son côté « comptez sur moi ». On trouve toutes ces lettres encore au manuscrit de la BNF. Claude Lévi-Strauss lui adresse le mot suivant, que l'on trouve également à la Bibliothèque nationale. « Il va de soi que je vous suis tout acquis. Mais depuis quelque temps se dégage l'impression qu'il existe au Collège de France un groupe de 25 personnes environ, difficiles à identifier, qui se connaissent et se concernent. Et cela fait une majorité quasi automatique aux élections. Comme je ne suis pas du nombre, écrit Lévi-Strauss à Aaron, mon vote ne vous apportera rien de plus que ma voix. En revanche, il semble que Louis Chevalier joue un rôle important dans cette faction majoritaire, et il m'a dit naguère qu'il souhaitait que vous succédiez à Sauvy. S'il a toujours la même attitude, ce serait un indice extrêmement favorable. Il faudrait voir de son côté et de celui de certains scientifiques qui font la majorité. Mais encore cette fois, il y a des dieux au collège et je ne suis pas dans leur secret. Raymond Ledru, professeur de sociologie urbaine à Toulouse, présente sa candidature avant de la retirer promptement. Dans son projet d'enseignement, Raymond Aron situe sa réflexion dans le prolongement des penseurs allemands et surtout de Weber. Il ne mentionne qu'une seule fois le nom de Durkheim en le nommant parmi d'autres, lorsqu'il évoque simplement son livre « Les grandes étapes ». Mettant en doute une nouvelle fois la validité de la sociologie positiviste, en présentant donc le texte avec lequel il présente sa candidature au Collège de France, la question se pose à laquelle ce livre sur les grandes doctrines de sociologie historique ne donne pas de réponse. Jusqu'à quel point la sociologie des professionnels d'aujourd'hui, empirique, souvent mathématique, en son expression, offre-t-elle l'équivalent de ces grandes doctrines? Ce qui en tient lieu, peut-il prétendre à la scientificité? Robert Minder, dont il a été question ce matin, ou hier, je ne sais plus, ce matin, un austère germaniste, ancien condisciple de Sartre et de Nizan à Normalsup, qui a dû connaître Aaron, présente sa candidature, ainsi que celle, en deuxième ligne, purement femelle, de François Bourricot, et moment d'émotion pour moi, puisque j'ai fait mes 2 thèses avec l'un et avec l'autre, à l'Assemblée des professeurs du 30 novembre 1969. Dans un rapport non dénué d'humour, Minder commence par souligner que cette discipline, la sociologie de la civilisation moderne, je cite, « se trouve dans une situation inflationniste, tous les diaphorus du moment se délectant d'un jargon pseudo-sociologique propre à discréditer cette science elle-même. » Évoquant la sociologie d'Auguste Comte, bizarre à bien des égards, puis la venue de Tarde, choix heureux, choix insolite, le rapporteur note que Durkheim allait s'opposer à lui et devint le vrai père nourricier, citation. Puis c'est Marcel Mauss, disciple direct de Durkheim, qui entre au collège. Puis c'est André Siegfried, dont la compétence universelle le rapproche, selon lui, et ça me paraît bien bizarre, de la prose, notez l'intérêt de cette phrase, qui se rapproche comme lui en honorant comme lui la presse, c'est peut-être pas le meilleur des compliments, d'une prose française limpide, nette, souple, étincelante. C'est le sens de leur responsabilité civique, souligne Minder, qui a poussé les deux hommes vers ce mode d'expression dont on mesure les inconvénients dans une compétition universitaire. L'œuvre risque d'être masquée par le hors-d'œuvre. C'est pas moi. Après Mauss, Après Mauss, c'est Maurice Alvax qui rejoint le Collège de France. Minder refait la généalogie de tout cela. Et il en vient à Aron, de manière un peu rapide. Et il dit ceci, Aron a une culture encyclopédique. Il lance ceci, il termine par une péroraison. Comparé à Tarde, Mauss, à Maurice Alvax, à d'autres encore, dont André Siegfried, ce qui est pour le moins surprenant, le candidat n'est-il pas digne d'eux? Et de conclure, bénéfique pour le collège, l'entrée d'un homme qui a scruté le présent avec la rigueur d'un clinicien et la passion du juste, et qui, sans illusion, mais avec l'ardent désir de voir quand même triompher du chaos la raison humaine, bon, tout ça n'est pas... essaie de dégager sur l'horizon les linéaments d'un futur, sinon meilleur, du moins encore visible. On peut estimer que ce premier rapport n'est guère particulièrement enthousiaste, même s'il range Aron dans la lignée de Durkheim, Mauss et Alvax. Il est même quelque peu étrange par le rapprochement insistant entre Aron et Siegfried, lequel exposait au Collège de France, il y a peu de temps encore, pendant Vichy et ensuite, les théories raciales fondées sur les différences entre brachycéphale et dolichocéphale. Cette fois, pourtant, les choses se présentent bien. Le 3 décembre 69, Claude Lévi-Strauss félicite Aron de la tenue de cette journée. Citation. « Vous adresser des félicitations après la séance de dimanche eût été indécent. Au moins peut-on se réjouir que réparation soit faite. J'aimerais croire que mon intervention a pu contribuer au résultat, mais en vérité, elle n'était pas nécessaire, car il semble que l'Assemblée était convaincue d'avance. » Le 12 avril 1970, j'ai encore 10 minutes à peu près. Le 12 avril 1970, lors de l'Assemblée des professeurs, durant laquelle va se dérouler le vote, Robert Minder reprend la parole. Dans un autre rapport, qui se trouve non pas ici, mais à nouveau à la BNF, il commence par dire ceci. Raymond Aron, dont j'ai l'honneur de présenter la candidature, est connu de nous tous depuis longtemps par ses livres, du moins par ses prises de position percutantes sur des sujets d'actualité, d'intérêt national ou international. Ceux qui utilisent la télévision ont pu voir et entendre l'auteur lui-même s'expliquer sur son œuvre et sa personne pendant une heure en décembre. Raymond Aron, dont j'ai à vous exposer les titres aujourd'hui, appartient à la prestigieuse génération de jeunes philosophes qui semblent n'être sortis adolescents de la Première Guerre que pour rentrer à l'âge d'homme dans la Seconde. Minder présente ensuite l'introduction à la philosophie de l'histoire comme un tournant, je passe très vite, dans l'histoire de la philosophie française. Il analyse le travail d'Aron sur les sociétés industrielles, présente paix et guerre entre les nations, en considérant que, je cite, « celui que l'on considère trop volontiers du dehors » comme un analyste froid et un manieur de scalpel, c'est dans le texte, un manieur de scalpel extraordinairement habile et tranchant, est en effet et a toujours été un homme de l'engagement moral, c'est-à-dire un homme profondément blessé par les contradictions internes et les forces destructrices de la vie. Interrogation sur soi et fermeté, c'est bien ce double aspect qui s'exprime ici, champ alterné de toute une œuvre. Dans son rapport, Minder n'évoque qu'une seule fois, en passant le nom de Durkheim. Parmi les nombreux auteurs qu'Aron analyse, il ne dit rien des rapports entre Aron et ses prédécesseurs sociologiques français, ne cite jamais ni Bouglé, ni Davy, ni Mauss. L'œuvre d'Aron se trouve essentiellement intégrée à la sociologie allemande de Marx, de Weber, de Tönnies, de Mannheim, de Scheller, de Zimmel ou de Dilthey. Et de conclure en soulignant qu'Aron récuse toute forme de neutralité. « Équité », dit-il, « c'est peut-être sur ce mot que pivote et s'infléchit la pensée profonde de l'auteur. Équité pour lui, cette pesée prudente, consciente et toujours reprise du pour et du contre, est fort différente de la neutralité qui ne peut qu'être illusion et vanité chez le sociologue. Ces grandes lignes vous ont été retracées fort incomplètement par quelqu'un qui n'a pas fini d'en explorer les subtiles et multiples ramifications. » Ce même jour, Aron est élu à l'unanimité des votants, soit 37 voix en sa faveur sur 37 votants. En seconde ligne, de manière purement formelle, François Bourricot, son ami, obtient pour cette candidature purement formelle 34 voix. Claude Lévi-Strauss, Louis Chevalier, dont le rôle a dû être essentiel, ou encore François Pérou, étaient présents, entre autres, lors de cette élection. Le même jour, Georges Duby se trouve également élu à l'unanimité des votants, 38 personnes. Tandis que Michel Foucault, le même jour, qui souhaite succéder à la chaire de Jules Villemain, ne recueille que 24 voix sur 39. Dans le dossier des lettres de félicitations qu'Aron reçoit au lendemain de son élection, ne figure aucune lettre de sociologue français. On peut les lire toutes à nouveau au manuscrit de la Bibliothèque nationale. La leçon inaugurale, et j'ai encore 5 minutes, je pense. J'ai commencé à 17 à peu près, donc 18. La leçon inaugurale de Raymond Aron a lieu le 1er décembre 1970 à 16h. Parmi les personnes invitées, dont la liste méticuleuse est rédigée par Aron lui-même, est disponible au manuscrit, on trouve un grand nombre de sociologues comme Isambert, Touraine, Crozier, Roncaiello, Pierre Bourdieu, Darbel, Carpi, Cuisenier, Mindras, Stoetzel, Girard, Davy, Barbu, Friedman. À l'exception de Georges Balandier, ses collègues de la Sorbonne sont invités, tout comme nombre de sociologues de la Société française de sociologie, dont Aron a été un vice-président, puis un président très actif depuis les années 60. Remarquons en passant, est-ce un oubli ? En tout cas, son nom ne figure pas dans la liste écrite par Aron lui-même, manuscrite que l'on peut trouver. Raymond Boudon ne figure pas parmi les personnes invitées, et François Bourricot non plus, ce qui est plutôt étrange. Ce moment est paradoxal, et ça sera la fin de cet exposé. Alors qu'Aron ne cache pas sa longue antipathie à l'égard de Durkheim, auquel il s'est peu intéressé, il donne pour une fois toute sa place à la sociologie durkheimienne. Se montre le temps d'un moment symbolique, presque un fidèle héritier. Cet épisode marque un moment unique dans son rapport à la sociologie française durkheimienne, qui prend place alors que se dessine un regain d'intérêt à son égard. C'est qu'il accède au prestigieux collège auquel Durkheim, en dépit de 3 tentatives, a échoué à y entrer, qu'il succède dans cette institution hostile aux durkheimiens, pour reprendre la phrase de Raphaël Farrago-Bentian, à Marcel Mauss et à Alp Vax, il encense presque pour une fois l'héritage durkheimien qu'il a tant renié. Sa leçon en témoigne, dont on dispose du manuscrit rédigé à la main, là encore au manuscrit de la Bibliothèque nationale, et qui est intéressant, je l'ai fait un petit peu tout à l'heure, vous verrez, de comparer au texte qui a été publié. Cette fois, dès les premières phrases de sa conférence, Aron, je cite, « ne parvient pas à prendre à son compte le plaidoyer de Max Weber » et préfère, je cite, « choisir pour répondant Marcel Mauss, si proche de ma famille. Si Weber l'emporte d'une courte tête, en étant mentionné 16 fois au cours de cette conférence, Durkheim se trouve évoqué à 15 reprises et Marcel Mauss à 10. C'est souligner pour une fois la formidable présence de l'école durkheimien si proche de sa famille, à laquelle il rend ouvertement à cette unique occasion hommage. À tel point que si Aron s'interroge à nouveau sur, je cite, les causes d'une allergie à la pensée durkheimienne et d'une affinité élective à la pensée de Max Weber, il avoue cette fois que ses réactions affectives relèvent de l'injustice. Pour une fois, il le reconnaît. Mieux encore, après avoir exposé la logique propre à chaque sociologue, il déclare « On objectera à juste titre que l'opposition entre les deux hommes porte moins sur la partie proprement scientifique de leur œuvre que sur les intentions ou les implications philosophiques. J'en conviens sans peine, manière de réconcilier deux auteurs qui l'opposaient sans cesse tout au long de sa vie. » Pour la première fois, il en vient à écrire, citation, du même coup, s'esquisse la synthèse entre les deux histoires possibles de la sociologie, synthèse d'autant plus aisée à atteindre que, je cite, Émile Durkheim et Max Weber ont tous deux pratiqué des recherches qui ressortissent à ce que d'aucuns appellent aujourd'hui avec mépris la sociologie microscopique ou empirique. Fin de citation. Si Aron regrette que Durkheim n'ait pas prêté suffisamment attention aux révolutions, aux conflits, il considère, je cite, que le langage de Weber a vieilli. Il estime que parfois, je cite, le sociologue Weber ne se soucie guère du projet du prophète ou de l'artiste en tant que tel, en son intentionnalité propre. À ses yeux, Weber met dans la même catégorie des personnalités charismatiques comme le Christ, Bouddha, Hitler, Huey Long aux États-Unis, fin de citation. Au moment de conclure, en revenant une ultime fois à Mauss, Aron estime encore que Weber, je cite, « devenait incapable de distinguer entre le démon de Socrate et celui d'Hitler ». Cette fois, à travers cette leçon d'Aron, Durkheim, l'espace d'un instant, semble presque entrer au Collège de France. Telle semble presque l'intention d'Aron, qui, dans le manuscrit de sa leçon, soulignait encore davantage sa propre filiation avec la sociologie durkheimienne. Je n'ai pas beaucoup de temps. Un exemple. Ainsi, il soulignait, avant de rayer ce passage dans la conférence publiée, je cite, que lui-même a suivi l'enseignement de Marcel Mauss, de Simian et d'Alvax. On pourrait noter un grand nombre de passages qui ont été rayés, comme je le fais dans ce texte écrit, qui en fait disparaissent du texte publié. En dépit de son retour provisoire au bercail, j'en ai terminé, en dépit de ce retour provisoire au bercail durkheimien, parmi les lettres de félicitations reçues au lendemain de la leçon inaugurale, on ne trouve curieusement aucune lettre des sociologues invités, proches parfois de la logique durkheimienne, dont on ignore d'ailleurs s'ils ont ou non assisté à la leçon. Aron reçoit surtout des lettres enthousiastes, provenant de personnalités invitées du monde économique ou médical que l'on trouve au manuscrit de la BNF. Il en est de même quelques mois plus tard, après la parution de la leçon chez Gallimard. À cette occasion, Aron adresse un exemplaire dédicacé à 52 personnes dont il note les noms. Parmi elles, on ne compte que 3 sociologues, François Bourricot, Georges Feldman et le doyen Davy. Durant ces années au Collège de France, Raymond Aron se montre davantage préoccupé par l'économie politique. Il propose la création d'une chaire d'économie, souhaite la création d'une chaire d'analyse historique des faits économiques au nom de François Simian, je cite, venu de l'école durkheimienne, personnalité exemplaire de savant, etc. Je n'ai pas beaucoup de temps. Aron invite Peter Wiles, économiste de l'Université de Londres, présente la candidature de l'économiste Maurice Lévy-Leboyer contre celle de Pierre Chenu, se montre peu favorable à celle de l'économiste marxiste Maurice Bouvier-Ajum. Ses prises de position internes en faveur de la sociologie paraissent très limitées. Il joue certes un rôle décisif dans le succès de la candidature de Pierre Bourdieu, que l'on évoquera, avant de le regretter. Ainsi, dans une lettre, vraiment un scoop, je trouve, ainsi, dans le 7 septembre 1976, dans une lettre que l'on trouve dans les papiers Aron, il y a un gros dossier lié à Paul Veyn, à l'élection de Paul Veyn, dans une lettre à Paul Veyn qui lui demande son appui en faveur de la candidature de Gérard Lebrun, Aron lui répond, lui conseille de s'adresser à d'autres collègues, comme, je cite, à mon ex-ami et désormais ennemi Bourdieu. De manière générale, Aron ne fait pas preuve d'un grand enthousiasme à l'égard du collège. Il se montre presque frappé d'amnésie en ce qui concerne sa candidature et ses années d'enseignement au Collège de France, auquel il semblait pourtant tant désiré d'accéder. Il n'évoque quasiment jamais cette institution dans ses mémoires, et le collège n'est mentionné que brièvement dans Le Spectateur engagé, où il note, sans enthousiasme débordant envers cette maison prestigieuse, « J'ai préféré le Collège de France à la Sorbonne, parce qu'il me faisait travailler encore plus. Pour ça, le collège était excellent. » Point final. La sociologie n'est plus guère au centre de ses préoccupations. Aron ne lui consacre que de très rares cours. S'il semble se tenir désormais à distance de cette profession, celle-ci le lui rend bien. Lors de sa disparition, la Revue française de sociologie, qui demeure largement fidèle à la tradition durkheimienne, se contente, en hommage à celui qui a siégé à son comité de patronage, de publier sa notice bibliographique et biographique. Rien de plus. Merci.